you.
Le Yiddish aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour. Hélas, personne ne répond. Doris ou Annette est encore à la maison avec son plâtre au pied. J'espère qu'elle elle peut se déplacer à l'intérieur de l'appartement, mais pas plus loin pour l'instant. Bon, bientôt elle reviendra et on sera deux voix à cette émission sur le Yiddish. Alors, comme Soukhot approche, je voulais faire l'émission autour de Soukhot en lisant une des nouvelles de Béla Chagall dans ce très joli recueil où elle raconte ses souvenirs d'enfance. C'est beaucoup autour des fêtes, ça peut être aussi autour de petits événements de sa vie familiale, car il faut savoir qu'elle avait 6 grands frères avant qu'elle n'arrive dans cette famille, il faut le souligner, très fortunée, où manifestement il n'y a pas de problème matériel, ce qui nous change beaucoup de la plupart des autres écrivains yiddish. Alors pour situer cette fête dans l'automne, cette chanson qui s'appelle Harpslied, très jolie chanson qui est très chantée aujourd'hui, ça fait pas tellement longtemps qu'elle est connue, écrite par, je ne sais plus comment, son prénom, Scherter. Et ici, elle est chantée par ses deux petites filles. Bon, c'est enregistré déjà en 2015, je crois. Donc, elles sont encore toutes jeunes. Elles ont une dizaine d'années de plus aujourd'hui. Et elles se spécialisent dans la chanson yiddish toutes les deux. Elles sont tout à fait mignonnes. Et puis, la transmission, manifestement, s'est passée dans cette famille. Donc, Harpslied.
This is Harps, in vos gegrit, vergelt, verwianet. This is Harps, in vos gegrit, vergelt. Und ich, vos hangemels, is schändig frieling. In Hart in Hart, die ganze Ewigkeit. Oh, fand ich ein Blatt, oh, fliegt ich ein Tag. Denn ja, ich hab jetzt der Blanche, wenn's nicht gedicht,
auf meinen Weg. Oh,
C'est enregistré live, comme vous l'entendez, avec la prise de son n'est pas extraordinaire, mais je trouve que c'est une très très jolie version à deux voix. Elles improvisent beaucoup, des deuxièmes voix, c'est très joli, c'est très frais, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ce sont de très jeunes filles. Donc, Soukhot, un texte de Béla Chagall. Le lendemain de Yom Kippour, on attend un message divin. Vraiment, après toutes nos prières et toutes nos larmes, il devrait arriver. Mais maintenant, c'est une charrette chargée de branches de sapin qui entre dans notre cour. Le cocher la renverse et les branches vertes et pleines d'aiguilles en tombent. Une vraie montagne. La cour se transforme en forêt. Ça sent la résine et le sapin. Les branches sont fraîches comme après la pluie. Elles ressemblent à de grands oiseaux au repos et une forte odeur monte comme une chanson. Quand on escalade cette colline verte, elle gémit, elle craque, elle cède sous les pas. Et quand on s'en balance dessus, elle dégringole. « Pourquoi tu sautes sur les branches ?» me crient mes frères. « Tu crois que c'est un tas de foin ?»« Non, c'est pour la cabane !» Ils retirent les branches de dessous mes pieds. Elles sont bien lourdes à soulever et tremblent de toutes leurs aiguilles. J'aide à porter les branches de sapin dans la cabane. Elle n'est pas encore terminée. Seuls les murs de planches sont montés et cloués ensemble, mais le toit est encore ouvert, on voit le ciel. Mes frères montent sur des échelles, se hissent sur des chaises, se tendent l'un à l'autre les branches et les secouent comme on secoue le loulav. Les branches s'ouvrent comme des éventails et voilà que la cabane ressemble à une tête couverte d'un chapeau. Elle est au milieu de la cour, attirante, accueillante, comme une petite maison dans la forêt. Elle est couverte de branches si denses qu'aucune étoile ne peut l'éclairer. À l'intérieur, c'est le crépuscule, mais à travers les fentes des murs de planches, percent quelques rayons de soleil. Une longue table et des bancs sont posés dans la cabane. Pas de plancher, rien que la terre. Et les pieds de la table et des bancs s'enfoncent dans le sol humide qui colle à nos chaussures. On reste dans la cabane et on s'imagine qu'on est à la campagne. On s'étale sur les bancs, on suit des yeux les taches de lumière vacillantes qui pointent. On se tend vers elles et les têtes levées, on regarde le toit fait de branches de sapin comme si c'était le ciel. On tressaille quand une goutte de rosée tombe. Et pour que tout le monde sache bien que la cabane est finie, que la fête a déjà commencé, nous entonnons une chanson. Aux fenêtres, tout autour de la cour, apparaissent des têtes. « Regarde, la cabane est finie !» Thank you. c'est affolant, hein, ce rythme. Quelqu'un crie, les enfants, le chams a apporté le loulav. On se précipite vers la maison. Elle s'est aussi transformée entre-temps. On y sent l'odeur des branches de saule. Le sol est parfumé de ses petites feuilles et son odeur se répand dans toute la maison. Où est donc la branche de palmier ? Là, elle est, dans le recoin de la fenêtre, appuyée au mur, seule, la tête penchée sur le côté, comme si elle voulait regarder par la fenêtre pour voir si elle n'y verrait pas un petit bout du ciel de sa patrie. Ses feuilles longues et étroites sont serrées les unes contre les autres. J'avance vers elle. J'ai peur de la toucher. Ses pointes sont coupantes, comme celles d'une épée. Je demande à mes frères. « Laissez-moi secouer le loulav. »« Avant, papa ? Je voudrais juste voir s'il est vivant. » La branche de palmier tremble dans mes mains et je tremble aussi. Elle semble animée par un vent léger et j'ai l'impression d'être en Israël sous un merveilleux palmier. Comment cette branche est-elle arrivée jusqu'ici ? Je demande à mon frère. Abrache, qu'est-ce que t'en penses ? Cette branche de palmier est venue directement de Jérusalem ? Et qu'est-ce que c'était là-bas ? Un arbre ou juste une branche qui a été arrachée à un arbre ? Qui l'a amenée ici ? C'est Pessah aujourd'hui pour que tu poses tellement de questions ou quoi ? Abracha ne sait pas lui-même, il veut juste se débarrasser de moi. Tu sais, je crois que cette branche de palmier s'est arrachée toute seule du sol. Elle voulait voir ce qui se passe dans le monde, c'est pour ça qu'elle s'est sauvée de chez elle. Et une nuit, Abracha parle tout bas comme s'il voulait se faire peur à lui-même, elle s'est arrêtée chez nous, sur le banc, près de la fenêtre. Je voudrais bien le croire. Mais je ne voudrais pas qu'il ait toujours raison. Mais on vient juste de la rapporter de la synagogue, je dis. Et qu'est-ce que tu dirais si je te racontais qu'on l'a emballée dans de la paille et qu'on l'a mise dans une grande caisse de bois ? J'ai vu à la gare que beaucoup de marchandises étaient expédiées comme ça. Mais non, la branche de palmier ne fait pas le voyage avec toutes ces marchandises pas cachères. Le rabbin te donnerait une baffe s'il entendait comment tu parles du loulav. Regarde-la bien, elle est toute fraîche et verte. Dans une boîte, elle se serait étouffée. Je touche encore une fois la branche de palmier. Ses feuilles fines et lisses vibrent comme les cordes d'une harpe. Je la console en lui disant « Attends, chère branche de palmier, papa va bientôt venir te prendre en main et faire une bénédiction. Alors tu n'auras plus froid et tu ne te sentiras plus étrangère parmi nous. » Et où est l'étrog ? L'étrog jaune est étendu, gros et gras comme un pharaon sur son lit moelleux, dans la boîte à sucre, dans laquelle il n'y a plus de sucre, et diffuse un parfum doux, comme un roi. D'où vient l'étrog ? Mon père entre dans la pièce, suivi de mes frères. Venez, les enfants, on va bénir la branche de palmier. Papa regarde l'étrog et la branche de palmier. Il sort l'étrog de sa boîte et le pose à côté de la palme. Ils se blottissent l'un contre l'autre. Ils viennent du même pays. Papa, le regard vers le bas, prononce la bénédiction avec tellement de force qu'on dirait que c'est un serment. Puis, il soulève la branche vers le haut, la baisse, la serre contre son cœur, la tient loin de lui, la penche vers la droite et vers la gauche. La palme répond, tremble, secoue la tête. Ses feuilles fines se tendent comme des mains suppliantes. Quand papa se tait, les feuilles tremblantes se referment. Regarde, tu veux bénir le loulav ? Papa le tend à son fils aîné. La branche de palmier passe d'une main à l'autre. Mes six frères se jettent dessous, la secouent, s'en servent comme d'une épée, la plient. La branche à moitié morte est reposée sur le rebord de la fenêtre. La cabane est prête. Elle doit attendre toute la journée pour qu'on y entre pour y manger. Entre-temps, elle s'est remplie de l'odeur des sapins. Les murs et le sol humide sous les pieds ont séché. Le soir, mon père et mes frères mettent leurs manteaux comme s'ils voulaient sortir. Ils vont manger sous la cabane. Maman et moi et Chava, on n'a pas le droit d'y aller. Devant la porte de la cabane, on entend papa faire le kiddush. Les plats sont servis à travers une petite ouverture, semblable à un trou, une assiette après l'autre. Mes frères pourraient vraiment croire que la nourriture vient directement du ciel. Ils ne pensent donc pas à maman et à moi. On est toutes seules dans la maison. Elle est si vide et si froide, comme si elle n'avait ni porte ni fenêtre. Je suis assise avec maman à table et je mange sans appétit. Maman, pourquoi nous devons rester ici avec les servantes, comme si nous étions aussi des servantes ? Quelle drôle de fête! Je ne la laisse pas en paix. Pourquoi est-ce qu'il mange à part? Ah, ma chérie, mais ce sont des hommes, dit maman tristement, en avalant un morceau de viande froide. Tout à coup, la cuisine est sens dessus dessous. Les servantes courent de la maison à la cave. Il pleut! Apportez-leur vite le reste du repas pour qu'ils puissent faire la prière d'après le repas, crie maman très énervée. Je suis vraiment contente que la pluie ait commencé à tomber au beau milieu du repas du soir. Pour maman et moi, la fête des cabanes est une si triste fête. Et là, un coup de tonnerre. Je regarde dehors pour voir si la cabane n'est pas tombée. Ça coule, tout est inondé. Le temps de dire ouf, toute la cabane est trempée. L'eau coule sur la table, goutte sur les murs, se déverse des branches. Les servantes apportent des assiettes pleines et la pluie tambourine dessus comme si elle voulait trouer le plafond protecteur. Dans le murmure de la pluie, j'entends papa faire la bénédiction. Les voix aiguës de mes frères suivent. Après, l'un derrière l'autre, ils sortent en courant de la cabane, les cols aplatis. On les regarde comme si ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Ils se précipitent dans la maison comme s'ils revenaient d'un autre monde. Quelques jours ont passé. On démonte la cabane. Les planches sont enlevées l'une après l'autre. Les branches de sapin gisent, défaites, sur le sol. La cour est remplie d'aiguilles. La cabane a disparu. C'est comme si elle n'avait jamais existé. La branche de palmier est retirée du rebord de la fenêtre. « Regarde ce qu'elle est devenue !» disent mes frères en rigolant. « Elle est toute fanée et desséchée, comme un vieillard édenté. »« Tressez quelque chose avec cette branche de palmier pour moi !» je leur demande. « N'importe quoi, un jouet, une petite corbeille !» Mon frère Aaron se met tout de suite au travail. Il a des doigts longs et agiles. Il détache une feuille après l'autre de la tige. Chaque feuille siffle doucement et se plie. Les doigts d'Aaron bougent rapidement, coupent de fines branches, font des tresses, et ça y est, c'est fait. Une petite corbeille, un récipient, une petite table, une chaise. De la grande branche de palmier, il ne reste qu'une tige jaune. L'étrog, on l'a complètement oublié. La cuisinière l'a jeté dans de l'eau bouillante, et lui, le gros, le royal, s'est transformé en un jus un peu collant sur une petite assiette. J'ai le cœur lourd. Les jours de fête sont passés. Heureusement qu'arrive bientôt Simchas Torah, la fête de la Torah, pendant laquelle toute la ville est invitée chez nous. voilà une chanson sur la pluie. Bon, elle est un petit peu plus nostalgique, on va dire, ou descriptive comment apparaît la pluie dans le récit de Bella Chagall, où c'est vraiment un bonheur de voir le féminisme naissant de cette jeune femme, petite fille même, elle doit avoir 8 ans, 10 ans, qui se réjouit tellement que la fête soit gâchée pour ses frères. Je trouve ça vraiment adorable. Parce que ça, pour une fois, on n'est pas dans un récit très nostalgique, très tout était bien autrefois. Non, il y a une pointe là déjà de revendication. Déjà, on est à peu près en 1900, appréciable. Ça a toujours existé le féminisme. Voilà, c'était notre émission sur Soukhot. Shalom à tous, merci Thomas et à la semaine prochaine.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.